face à un constat qui est d'une part des systèmes tout symboliques qui sont trop limités, qui ne sont pas connectés à la réalité, qui sont en fait de la pure manipulation syntaxique de la forme de symboles et qui ne fonctionnent pas très bien dans des robots qui sont en interaction avec l'environnement. De l'autre côté, on a des systèmes subsymboliques où il n'y a pas de symboles explicitement représentés, mais qui ont du mal à faire émerger du raisonnement, de la généralisation, des choses qu'on observe dans l'intelligence. Il y a eu, à un moment donné, une période de crise où on se demandait, mais comment faire? Parce que si on essaie d'augmenter l'approche qui n'a pas de symbole, par exemple une approche neuronale, pour essayer d'aborder les problèmes de l'argumentation, du raisonnement, ça veut dire qu'on se rapproche de systèmes de très grosse taille qui finalement se rapprochent de la complexité du cerveau lui-même. Et on n'a pas forcément simplifié le problème, puisque pour le résoudre, on va avoir besoin de comprendre exactement comment les neurones sont agencés dans le cerveau, quelles sont leurs fonctions et leur rôle respectif. Donc on se retrouve avec un problème de complexité à peu près identique au comportement qu'on veut faire émerger. Donc il y a une difficulté à passer à l'échelle sur des approches neuronales ou statistiques qui ne représentent pas les symboles. Parce que faire émerger ce traitement symbolique, qui existe effectivement dans le cerveau, il existe, je suis capable de raisonner, d'avoir des représentations symboliques. Il y a des débats sur le fait s'il s'agirait d'une illusion ou pas, mais en tout cas, je peux en parler et je peux donner une illusion très convaincante. Donc c'est possible, mais il ne s'agit pas simplement d'augmenter le nombre de neurones dans le système pour que magiquement, d'un seul coup, il y ait une masse critique qui fasse que des fonctions nouvelles qui sont complexes et qu'on ne comprend pas apparaissent. En tout cas, c'est pas l'hypothèse que je retiens. D'un autre côté, sur les approches symboliques, c'est très difficile de les connecter à la réalité, de les connecter dans le monde réel. Et c'est en fait ce problème-là et le problème plus général de quel est le sens des symboles. Quand j'ai un système qui manipule des symboles abstraits, qui représentent des tables, des chaises, des objets, des verres, des relations entre tous ces objets, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et quel est le sens fondamentalement des symboles qui sont manipulés à des niveaux très abstraits dans le système? Et ça, c'est un vrai problème scientifique qui a été posé en 1990 par Stephen Arnade, avec un article qui s'appelle le Symbol Grounding Problem, le problème de l'ancrage des symboles. Et qu'on peut illustrer très concrètement par un exemple très simple. Imaginez que vous ayez, je vous donne un dictionnaire de chinois, écrit en chinois, donc un dictionnaire chinois en chinois, et je vous demande d'apprendre le chinois. Eh bien, vous avez juste ça, et c'est ça qu'un système purement symbolique a dans sa tête, d'une certaine manière. Eh bien, vous n'arriverez jamais à parler chinois, vous n'arriverez jamais à comprendre ce qu'il y a, parce que tout simplement, vous allez chercher la définition d'un mot dans ce dictionnaire. Et vous allez avoir une jolie définition avec d'autres mots en chinois que vous allez chercher aussi dans le dictionnaire et ainsi de suite, bien sûr, sans jamais en sortir dans un cycle qui ne connecte absolument pas ces mots à une quelconque réalité. Donc, d'une certaine manière, ces mots n'ont pas de sens. Et le défi aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui essaie de connecter les deux grands territoires qui sont l'axe sans symbole et l'axe avec symbole, c'est de définir la façon dont les deux se connectent et comment ce dictionnaire, cet ensemble de symboles, va se connecter à la réalité. On ne veut pas entrer à la main la connexion. On ne veut pas dire, voilà, une table, c'est ça, et j'en donne une représentation. Un ingénieur, par exemple, entrerait patiemment à la main les connexions entre chacun des symboles et leur représentation dans le monde réel. Tout simplement parce que d'abord, ce serait une tâche gigantesque. Ensuite, ça n'a pas de sens parce que cet ancrage est dynamique avec le temps et on veut un système qui est capable d'apprendre, qui est capable d'apprendre de nouveaux mots, de nouveaux concepts. Donc, c'est pas la bonne direction. Et en plus, ça ne nous apprendrait rien sur les fonctionnements et les mécanismes de l'intelligence. Il y a quand même une ambition derrière tout ça de comprendre les mécanismes, donc d'expliquer la façon dont tout ça apparaît. Puisque au départ, on part de rien. Donc, on a un système qui, a priori, n'a pas de symbole, qui va progressivement construire des représentations de son environnement et les ancrer avec ces symboles. L'autre problème des systèmes purement symboliques, c'est qu'il s'agit d'un raisonnement en général purement formel qui n'est pas toujours calculable. C'est-à-dire que quand vous allez au-delà de raisonnements assez simples du type le père de mon père et mon grand-père, de raisonnements logiques de premier ordre, vous allez très rapidement entrer dans les limites de la machine, dans les limites de ce que l'on est capable de calculer, et vous avez des temps de calcul qui explosent. Donc il y a aussi un problème de faisabilité. Et puis, si vous imaginez que le système est capable d'enchaîner des informations, des symboles à l'aide de règles, du type, encore une fois, de la règle du père, de mon père, de mon grand-père. La question, c'est qui a ancré dans le système ces règles ? C'est-à-dire, d'où viennent-elles ? Il y a un problème fondamental qui est de donner du sens à toutes ces représentations et également de définir la façon dont ce sens apparaît et la façon dont il est appris et ancré dans le système. Et en plus de ça, il y a aussi quelque chose qui est assez important, qui est que l'interaction, la connexion entre les symboles et un modèle formel qui permet de les manipuler d'un côté et l'environnement apporte quelque chose d'extrêmement important au système, c'est que l'environnement est simulable. Donc on peut faire des raisonnements en essayant de simuler ce qui se passerait dans l'environnement sans faire référence nécessairement au symbole. Alors je vais prendre un exemple très très simple parce que ce sera beaucoup plus parlant. Si je vous donne de manière symbolique un ensemble de faits du type 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3 et 1 plus 3 égale 4. Alors imaginez que 1, 2, 3 et 4, c'est des symboles abstraits. Vous pouvez imaginer dans votre tête de les remplacer par des carrés, triangles, ronds, étoiles, par exemple. Donc ça ne veut rien dire a priori pour vous. Il faut essayer de désapprendre et d'oublier l'intuition que vous avez derrière ces symboles-là. Puis le symbole plus aussi, c'est une opération voilà, qui n'a, on peut le représenter par je sais pas, un trait, ou peu importe. Quelque chose qui n'a a priori aucun sens. Donc je vous ai dit que 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 1 plus 3 égale 4. Et si je vous demande maintenant, que fait 2 plus 2 ? Mais en réalité, si vous êtes un système symbolique et que vous n'avez pas à votre disposition l'arithmétique de Peano, par exemple, vous êtes Peano, il a inventé l'arithmétique de Peano, donc il n'avait pas cet outil sous la main. Comment vous faites ? Parce que c'est avec l'arithmétique de Peano que vous êtes capable de composer les différents faits que je vous ai donnés avant pour arriver à la conclusion que 2 plus 2 égale 4. Mais vous l'avez pas a priori. Vous n'avez pas forcément les règles d'inférence qui vous permettent, à partir des faits bruts que j'ai donnés, qui sont de la forme 1 plus x égale y, d'arriver à des faits de la forme x plus y. Maintenant, imaginez que ces symboles sont connectés à la réalité, à l'environnement. À ce moment-là, vous allez connecter, lier, ancrer le symbole 1 avec, par exemple, la présence d'une bille sur la table devant vous. Quand il y a une bille, ça allume le symbole 1. Votre système de vision vous dit qu'il y a un objet. En tout cas, la présence d'un objet allume un certain symbole qui se trouve être 1. Quand vous avez deux billes présentes devant vous, il y a un autre symbole qui s'allume. Je trouve être le symbole 2. Et ainsi de suite pour 3 et 4 billes. Et puis, supposons que vous ayez ancré aussi le sens de l'opération plus, qui pourrait être de rassembler physiquement devant vous les billes en question. À ce moment-là, vous avez quelque chose d'extrêmement puissant, parce que quand bien même vous n'avez pas l'arithmétique de Peano, vous savez ce qu'est 2, vous savez ce qu'est plus, et quand je vous demande 2 plus 2, vous allez être capable d'imaginer, donc de simuler dans votre tête. Ça, c'est parce que l'environnement a cette propriété remarquable d'être simulable. Il est stable, il y a des règles, on sait ce qui s'y passe. Eh bien, vous êtes capable de simuler la mise en juxtaposition côte à côte de deux billes d'une part et de deux billes d'autre part. 2 plus 2. Et à ce moment-là, votre système visuel va vous dire, ou du moins son application à la simulation que vous êtes en train de faire dans votre tête, va vous dire, ah ben ça, je sais ce que j'ai, c'est le symbole 4, que vous avez appris et ancré par ailleurs. Et donc vous allez avoir la réponse, 2 plus 2 égale 4, alors qu'elle n'était pas du tout inscrite dans votre système symbolique au départ. Et ça va peut-être vous aider à faire une inférence pour imaginer l'arithmétique de Peano. Voilà. Au fond d'ailleurs, je pense que c'est un peu ça qui fait que des étudiants sont plus ou moins bons en maths. Il y a ceux qui voient concrètement ce qui est derrière les formules, c'est-à-dire qu'ils les traduisent sous forme visuelle. Si je dis une fonction positive, son intégrale est croissante. Si vous avez compris que l'intégrale, c'est l'air sous la courbe, c'est évident. Si vous n'avez pas compris, vous en êtes réduit à faire de la manipulation de symboles abscons, suivant des règles que vous maîtrisez plus ou moins bien, qui sont des règles syntaxiques, des règles qui sont dénuées de sens. Et vous arrivez plus ou moins bien à démontrer cette propriété qui, en fait, est évidente. Donc, c'est vraiment la clé. Je pense qu'il est très important pour l'ancrage des symboles de l'environnement, c'est que l'environnement fournit un outil complémentaire au raisonnement formel qui existe du côté des symboles, fournit un outil complémentaire à travers la capacité qu'a le système de simuler l'environnement. Et donc, on peut se faire des représentations de ce que c'est, quelque chose de parallèle, de plus grand, plus petit, etc., qui sont ancrés et qui vont pouvoir donner lieu à des raisonnements non formels, qui peuvent ensuite être formalisés. Et c'est essentiel aussi, puisque si maintenant je vous demande de calculer, je ne sais pas, 142 524 plus 12 512 avec une méthode non symbolique, vous allez imaginer dans votre tête rassembler toutes ces billes devant vous et les recompter ensuite, enfin les compter, espérer que votre système visuel vous donne d'un coup comme ça la réponse, il est évident que ça ne marchera pas. Donc on voit bien qu'un système symbolique tout seul est incapable de faire émerger du sens et de faire émerger de nouvelles propositions qui ne sont pas déjà inscrites dans sa représentation formelle à un instant donné. Donc Peano ne peut pas inventer l'arithmétique de Peano. Et d'un autre côté, un système simulé uniquement, qui est basé uniquement sur l'expérience première, un système uniquement connecté à l'environnement, sans représentation, ben, va pas pouvoir, par exemple, répondre à des questions beaucoup plus génériques du type 100 000 et quelques, plus 12 000. Alors, quand on regarde le problème de l'ancrage, ce qu'on veut, c'est que le système donc, apprenne l'appariement entre des symboles dans le système et des éléments de perception extérieurs. Alors, déjà, une première question, c'est comment ancrer, comment faire émerger des symboles de la perception. Sur ça, il y a une grande littérature sur ce sujet autour de ce qu'on appelle la catégorisation, c'est-à-dire la capacité d'abstraire, de réduire la complexité d'un signal pour la représenter de manière plus simple, voire même jusqu'au point où on arrive à l'orienter par un certain nombre de symboles qui décrivent en gros ce qui est intéressant dans ce signal, de manière plus ou moins automatique. Récemment, il y a des directions qui sont qu'on appelle le deep learning, qui essaient d'explorer dans les réseaux de neurones comment des représentations de la régularité des signaux qui sont envoyés au système peuvent émerger spontanément. Donc le système est capable de détecter des régularités dans son environnement, de reconnaître des choses qui se répètent. Mais c'est pas suffisant, parce que si on s'en tient à ça, il y a quand même un problème qui est de savoir quoi ancrer. Même avec un système qui extrait des régularités du signal et qui découvre des patterns, on va dire, des choses récurrentes dans l'environnement, vous êtes confronté à des millions, des milliards de combinaisons possibles. Et donc, qu'est-ce que vous allez ancrer? Qu'allez-vous décider d'associer à un symbole ou pas? Vous n'allez pas associer, sinon vous n'allez pas associer un symbole à chaque représentation possible, sinon la langue française aurait des millions de mots. Donc on voit bien qu'il y a une question autour du choix de quand je veux ancrer des symboles, j'ancre quoi et pourquoi. Alors, il y a un paradigme d'évolution de l'intelligence artificielle et de la robotique assez récent, qui s'appelle la robotique sociale, ou l'intelligence artificielle sociale, qui en fait apporte une réponse à cette question de quoi ancrer. Et ce paradigme de la robotique sociale est né d'une... On va voir après comment il permet de répondre au problème de l'ancrage, mais il est né d'une observation assez simple, c'est que quand vous cherchez en tant qu'agent intelligent à résoudre des problèmes assez complexes, au bout d'un moment, il est indispensable de coopérer. Si vous voulez aborder des tâches complexes, résoudre des problèmes difficiles, vous êtes obligé de coopérer. C'est une belle leçon philosophique, mais c'est aussi une réalité concrète. Et si vous voulez coopérer, vous êtes obligé de communiquer. Et si vous communiquez, vous êtes obligé de créer un système de symboles. Mais quel symbole? Et justement, là, ça apporte une réponse au problème de quoi ancrer, puisque les symboles qu'on va utiliser pour communiquer, dans le but de réaliser une tâche, c'est des symboles qui sont d'abord ancrés dans l'environnement. On va parler de choses qui sont autour de nous. On ne va pas discuter de choses qui n'ont rien à voir avec la situation et la tâche justement qu'on est en train de réaliser en coopération. Et puis de symboles qui sont utiles à cette tâche. Alors d'une certaine manière, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le langage pourrait fournir une clé d'explication et même peut-être un mécanisme autour du problème de l'ancrage des symboles dans la perception, qui est le problème clé pour réunir les deux grands courants de l'intelligence artificielle, qui sont l'approche symbolique et l'approche subsymbolique. Pour illustrer ça, le meilleur exemple est de regarder une expérience qui a été faite dans les années 90, début des années 2000, et qui met en action ces différents principes dans une expérience qui s'appelle les Talking Heads, et qui fait émerger un langage très simple, un lexique de mots en interaction avec l'environnement.